et bienvenue à Je vais au ciné. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Antoine.
Bonjour.
Bonjour Antoine.
J'ai un peu peur.
Tu as peur? Sors de ton trou, n'aie pas peur.
J'ai peur que tu piques encore une crise et que je tiendrai pas deux émissions. Je veux dire, mes nerfs ont été mis à rude épreuve la semaine dernière et je suis à deux pas de craquer.
Écoutez l'émission de la semaine dernière si vous voulez comprendre cette blague.
Arrête, Mickaël. Acteur studio.
Bonjour, Mickaël.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler des résultats des Oscars. Parce qu'on l'a pas encore fait. Et puis qu'on a fait des pronostics, donc ce serait quand même pas mal de faire le tour.
Voilà, et c'est le moment de s'auto-congratuler, parce qu'on a eu raison sur pas mal de points.
Oh oui. Bah déjà, par le meilleur film, on l'a espéré et on l'a eu.
Oui, bon bah là on va dire que c'est le truc où on n'avait pas vu venir, quoi, parce qu'on a dit, on espère, mais ce sera pas le cas, bah, et puis finalement.
Et donc Parasite a eu l'Oscar du meilleur film.
Oscar du meilleur film.
Puis celui de la réalisation, on l'espérait aussi, mais il l'a eu aussi.
Moi, je l'avais pas vu venir.
Meilleur film,
ça aurait été bien. J'y croyais pas, mais ça aurait été bien. Autant que meilleur réalisateur, je l'ai même pas envisagé.
Meilleur film international aussi. Alors, ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre.
Et meilleur film international. Mais ouais. Ils ont parasité les Oscars. Voilà, il fallait que quelqu'un fasse la blague. Je me suis dévoué. Mais c'est bon.
Il a pas eu meilleur film d'animation. Là, de ce côté-là, la statue...
Meilleur film d'animation, ils n'ont pas fait ça. Non,
c'est con. Non, mais Toy Story 4...
Meilleur documentaire aussi, il l'a loupé. Alors, c'est honteux, je trouve.
Ouais. Mais par contre, meilleur scénario original, il l'a.
Oui, ça, c'est à la limite, c'est mérité.
Oui, bah, c'est tellement... En fait, quand on regarde, c'est tellement... ça devient tellement... peut-être pas rare, mais de moins en moins commun d'avoir des scénarios qui sont pas adaptés d'un ancien film, d'un bouquin, d'une BD, de machin. Ça devient de moins en moins commun d'avoir des scénarios qui sont originaux. Purement originaux.
Bah, le début du cinéma, c'était souvent pas des originaux. Hein.
Non, mais je dis pas que c'était mieux avant. Je dis que en fait, quand on réfléchit, en fait, il y a très peu de scénarios. Enfin, très peu, peut-être pas très peu, mais
non, mais très peu qui fonctionnent surtout, parce qu'il y en a plein qui sont créés, qui fonctionnent pas.
Oui, peut-être.
L'avantage de partir de quelque chose qui existe déjà, c'est que c'est connu d'au moins d'un certain nombre de personnes.
C'est ça.
Ça aide à vendre un film.
Transpersonnage, par exemple.
Ça aide à avoir un public. Un public ça tout aide. Prêt, quoi, déjà.
Déjà existant.
C'est ça.
Après, on va regarder au niveau des acteurs et des actrices.
Bon, bah là,
Joaquin Phoenix pour raison, Joker. Hein. Voilà,
ouais, aucune surprise.
Aucune surprise. Renée Zellweger pour Judy. Alors, entre-temps, moi j'avais plutôt dit Charlize Theron, mais entre-temps, j'ai vu Judy. Donc, je comprends pourquoi Renée Zellweger. C'est le seul truc intéressant du film, donc Renée Zellweger, voilà. Allez voir au moins ce film pour ça.
Allez voir Bridget Jones, enfin je veux dire
pour
Judy.
On dit pour elle, quand c'est une fille on dit pas ça.
De quoi?
T'as dit aller voir ce film pour ça, non, aller voir le film pour elle.
Oui, non mais pour son interprétation.
Attention là, je suis pas raciste, sexiste, je sais pas quoi là.
Non mais pour son interprétation, pas pour... Oui, pour elle, mais son interprétation surtout de Judy Garland qui est... Voilà, c'est la seule chose intéressante à voir dans ce film. Le meilleur acteur dans un second rôle, Brad Pitt pour Once Upon a Time.
C'est pas de surprise non plus.
Un débutant.
Oui, voilà.
Un débutant.
Non, mais dans le tas, il y a que des débutants. Je veux dire, là, pique-nidouille. Hein.
La compositrice de la musique de.
Oui, non, mais je te parle des second rôles. Après, dans les meilleures actrices de second rôle, Laura Dern pour Marriage Story.
Ah, bah ça, vous l'aviez vu. Ça, Mickaël avait dit.
Toujours aucune surprise.
Voilà. Bon, le scénario original, on l'a dit. Meilleur scénario adapté, Jojo Rabbit.
Ça, je suis content. J'ai vu le film récemment, je suis content.
D'accord.
Je suis content.
De toute façon, vu ce qu'on avait dit sur les autres films, à part peut-être Les Filles du Docteur March, peut-être, et Les Deux Papes.
Ouais, oui, exact. C'est exact. Non, mais Jojo Rabbit, c'est bien parce qu'en fait, je trouve. Alors après, ma raison va peut-être vous faire bondir, mais je trouve qu'on ne...
On manque de films de nazis.
Non,
les nazis sont pas
récompense. En fait, dans des cérémonies comme les Oscars, on récompense pas souvent des comédies.
Oui, c'est pas fou.
Et
surtout qu'à une époque.
Si ce n'est que, voilà, même si scénario adapté, c'est pas l'Oscar le plus sexy, bon, c'est quand même une reconnaissance. Et donc rien que pour ça, je suis plutôt content.
Il me semble que dans certaines cérémonies, en plus, ils font dramatique et comédie, c'est bien séparé.
Golden Globe, ouais, par exemple.
Golden Globe.
Ouais. Enfin bon, j'ai envie de dire, celui qui a été primé cette année, c'est Once Upon a Time in Hollywood.
En comédie.
Je pense pas qu'on. Oui, voilà, c'est en comédie. Je pense qu'on ne doit pas se taper les cuisses non plus. Hein.
Meilleur décor, Once Upon a Time in Hollywood, comme on vient d'en parler. Bon.
Le lien, voilà. le lien.
Je crois que tu me parlais de 1917, je crois, pour les décors. Non,
c'était pas non, c'est que tu me parlais, la photographie, 1917. Ah, 1917. Roger Deakins, notre le grand Manitou des directeurs photo actuels. C'est la grosse pointure.
Meilleur costume, les filles du Dr March.
C'était bon. Le seul film d'époque. Il n'y a pas de grosse surprise non plus.
Si, si, t'as joué au Roger Rabbit aussi.
Ouais, attends, mais c'est pas la même époque.
Quand ils sont dans des tenues.
Parce que les filles du Dr March, c'est la guerre de sécession. Donc on est dans un autre de level de costume que des uniformes de nazis, quoi.
Oui, voilà.
Bon. Oh, Hugo Boss, c'est le nazi quand même. Non, mais attends. Ouais.
Meilleur maquillage et coiffure, scandale. Alors je connais pas ce film, donc je peux pas en parler.
C'est le film où il y a Charlize Theron et sa prothèse, Margot Robbie et Nicole Kidman.
D'accord. Bon, bah c'est pour ça, alors il y a peut-être un peu plus de maquillage.
Oui. Attention, oui, pour changer la tronche de Charlize Theron, oui, effectivement, à mon avis, ils n'ont pas dû lésiner, ouais. Je pense que c'est pour ça, oui.
Meilleure photographie, bon bah voilà, 1917, on y est.
1917, meilleure photographie, ouais.
Oui, c'est tout ce qu'il mérite.
D'accord.
Non, mais genre, c'est un film de.
Bah, pareil pour moi avec Judy. Hein.
Ah, il a quand même chopé le Golden Globe, quand même. Oui, donc, mais après.
Honnêtement, je sais pas ce qui restera de ce film-là dans quelques années.
Seul le temps nous le
oui,
dira.
Oui, non, mais c'est sûr.
Après, je pense pas grand-chose.
Parce que niveau émotion, c'est zéro.
Il fera partie
des films de guerre de la Première Guerre mondiale, ce qui est pas fou.
Ouais, c'est ça. Pas beaucoup, oui, il y en a pas des masses. Ouais.
C'est vrai qu'on s'est plus concentré sur la deuxième ou sur les guerres du Vietnam.
Bah,
où c'était
sur
la
guerre plus récente, en fait.
Ouais, c'était populaire à un moment. Tout le monde a fait son film sur la guerre du Vietnam.
Ouais, surtout que la Première Guerre mondiale, c'était une guerre assez statique, alors.
Bah, il y a des choses à raconter aussi.
Non, mais c'est sûr que si tu fais un film d'action où ça bouge. Oui. Non, mais c'est sûr.
La preuve.
Meilleur montage et aussi meilleur montage de son pour Le Mans 66. Bon, bah, il y a du montage, quoi. Voilà.
Oui, pourquoi pas.
Il y a du montage.
Enfin, du démontage, surtout quand tu démontes la Ford.
Eh oui. Les jeux de mots.
Meilleur mixage du son pour 1917. Et meilleurs effets visuels aussi. Bon, 1917, quand même 3.
Ouais. Ça vaut que pas le champ de louche, je trouve.
Moi, je préfère autant que ce soit 1917 qui soit récompensé que Avenger.
Oui, à choisir, oui.
Voilà, qu'à t'as choisir. Et j'aime Avenger, hein. J'ai mis dans mon top. Ouais, mais quand même.
Il était nominé ?
Oui,
dans les meilleurs effets spéciaux.
Le seul truc. Comme le Roi Lion aussi, hein, mais bon. Et Star Wars, enfin tu vois que des trucs
c'est ça tu vois, c'est en plus.
Et moi, je peux comprendre qu'ils aient élu Parasite en fait.
non mais c'est surtout que
visuel, t'as Avenger, Irishman, Le Roi Lion et Star Wars.
C'était l'Oscar à Disney, ils se sont quand même plantés. Et c'est fou quand même.
et c'était quand même le seul où bon, il méritait peut-être un peu plus que les autres. Meilleure chanson originale, I'm Gonna Love Me Again de Rocketman.
Je surkiffe ton accent.
Ah ouais, on sent que voilà, tu love again beaucoup là en ce moment.
Bon, j'ai écouté la chanson pour la curiosité. C'est pas la meilleure.
Ah, c'est pas, ouais.
C'est pas la meilleure d'Elton John. Bon, après, je sais pas ce qu'il y a dans le film comme chanson d'Elton John, mais c'est pas la meilleure d'Elton John. En l'occurrence, une chanson qu'il a fait pour Disney passe beaucoup mieux. Enfin, mais je suis pas sûr que ce soit dans.
J'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé.
Wanya, nanani, nanana.
Oui, mais
c'est ça que tu penses.
C'est le Roi Lion, ça, non ?
Oui.
Bah, je suis bon. Allez, un point pour le quiz.
Ouais. Et un point pour l'imitation.
Meilleure musique de film, le Joker. Bon.
Ah, vas-y, prononce la compositrice.
Ça, c'est drôle.
Il dure. Gonadotir, je sais pas.
Gonadotir. Moi, j'aime bien.
Bah, moi, je m'ennuie.
Bah, c'est du violon.
Voilà. C'est bon. L'équilibre est rétabli.
Équilibré, voilà.
Voilà. Si vous aimez le violon, faut l'écouter.
Il y en a un qui s'ennuie. Voilà.
Voilà. Si vous aimez le violon, faut l'écouter. Sinon, non.
Sur des nappes électroniques, préciser quand même. Ouais. Parce que bon, si les gens, tu leur dis c'est du violon et ils s'attendent à avoir un quatuor de Mozart,
non,
c'est pas du tout le délire.
Non,
c'est pas l'ambiance.
Un seul, pas très intéressant. Meilleur film d'animation Toy Story 4. Bon, bah voilà. Hein. C'est celui que j'aurais. Bah,
Disney, là, ils sont.
Oui. Son Oscar.
Son Oscar.
Ouais, mais bon. Sur l'Oscar du film d'animation, ils l'ont tous les trois quarts du temps.
Bah, si c'est pas eux, c'est DreamWorks. Donc, je veux dire.
Ouais. À part en 2018, où il y a eu Spider-Man Into New Generation.
Oui.
Qui a été l'exception, entre guillemets, petit peu.
Bah, parce qu'il était vraiment bien.
Parce qu'il était vraiment bien.
Meilleur film documentaire, American Factory. Bon, je sais pas. Meilleur, enfin, on va pas tous les faire. Bon. Voilà.
Non, hein.
Et puis les Oscars d'honneur pour David Lynch, Wes Studi et Lina Wertmüller.
À tes souhaits.
Ouais.
Je sais même pas qui c'est.
Bah, la dernière, non. Je ne sais pas.
Non, pas elle, mais David Lynch.
Oh là là.
Erase Head, Elephant Man.
Non, mais je rigole. Je rigole, je sais.
Pardon.
Et aussi, peut-être, alors je sais pas si vous avez vu les cérémonies ou en tout cas le débrief d'après-cérémonie. Il y a eu quand même une personnalité qui est venue longtemps après avoir eu son Oscar, qui est Eminem chanter, alors qu'il avait pas pu venir chercher son Oscar.
Ouais, et puis il a chanté sa chanson là.
Il a pu chanter sa chanson plusieurs.
Ouais, alors là il y a une fausse, c'est fou ça, une fausse.
Information.
Un faux scandale, non, mais parce qu'en fait au moment où ils ont passé. Le moment où Eminem chantait, il y avait Scorsese qui était filmé en fait. Mmh. Et il y a un plan où il montre que ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que ça, mais la chanson de.
S'en fout, s'en fout.
Non, mais
comme moi.
Oui, oui, non, mais puis il a le droit de pas aimer.
Mais voilà.
C'est fou, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est parti.
Ah, t'as pas le droit de montrer que t'aimes
c'est
pas.
C'est ça,
hein.
T'as pas le droit de montrer.
Surtout
que t'aimes
Eminem.
Pas,
attends, Eminem.
Et en plus, il le
eh ben,
savait pas, quoi. Donc,
auditeur, Eminem, je m'en tamponne. Mais si tu savais à quel point.
Ouais, mais c'était sympathique. Enfin, c'était sympathique dans le sens.
Ouais, je vais avoir des problèmes.
Dans le sens où personne n'était au courant. Et puis, comme il n'était pas venu à son Oscar, puisqu'il a préféré s'occuper de sa fille. C'était quand même sympa qu'il passe. Quoi.
C'est cool. Wow. Mais on s'en fout.
Ouais.
Enfin, non, pardon. Je reformule. C'est cool, mais j'en ai rien à carrer. Voilà, bon. Personnellement. Ça n'engage que moi, cette opinion.
Eh ben, c'est pas grave, puisque de toute façon, on va l'écouter, sa chanson d'Eminem, Lose Yourself.
Ah oh.
On se retrouve juste après.
Je sors de l'émission tout de suite.
Enfin.
Ça y est. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choked. He's so mad, but he won't give up. That is he know? He won't have it. He knows. His whole back's at these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. When it's back to the lab again, yo, this old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better souls escaping. This hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring.
But superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther. From home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. And they moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soul popper is told, it unfolds. I suppose his old partner, but the beat goes on. That it up, that up. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. No more games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Phifer. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see this order caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot, so here I go with my shot. Feet fail me not, this may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better.
Voici un Je vais au ciné. On va parler de Super.
Et c'est super.
Et ça a l'air de te plaire.
Ouais. j'ouvre les hostilités.
Bah, alors, je peux déjà expliquer de quoi parle le film.
Oui.
C'est un homme qui a perdu sa femme. Enfin, perdu. Sa femme s'est barrée.
Avec un charmant dealer.
Avec un charmant dealer qui est une ancienne droguée qui retourne avec un ancien dealer. Enfin, même pas un ancien dealer, un dealer tout court.
Un dealer tout court.
Un gros dealer, et elle est complètement shootée et il perd. Enfin, elle part quoi. Donc, et il est toujours marié avec elle. Et pour essayer de passer outre ça, il se trouve une idée, une lubie de se transformer en super-héros.
Sauf que.
Oh, bah, oui, mais.
Il n'a pas de super pouvoir.
Il n'a pas de super pouvoir. Et en plus, il est un peu sous le coup de la côté religieux, quand même. Il y a quand même une grosse part de religieux dans ce film. Où il a un exemple de super-héros qui vient d'une série toute pourrie religieuse chrétienne. Avec un super-héros chrétien. Enfin, moi, j'ai trouvé le film complètement. À coup de. Enfin. Comment dire,
décalé,
ouais, à côté de ce qu'on peut avoir. Et il est sorti à l'époque au même moment que Kick-Ass, même s'il avait commencé à être produit un an avant. Et c'est un film qui parle pas de la même chose. Autant Kick-Ass il parle un peu des super héros, autant là il parle d'un mec qui est complètement à la masse quoi.
C'est comme le chasseur et le bon chasseur, tu vois.
Le thème est commun, mais le traitement est totalement différent.
Ouais, voilà, c'est complètement différent et ça parle d'un mec qui est complètement déphasé de sa vie et qui pète les plombs.
Ouais, oui, mais ça va pas. Enfin, creuse pas le sujet en profondeur. Hein. On
se rapproche presque du Joker. Je peux être méchant. C'est un mec qui pète les plombs. Pas pour les mêmes raisons, mais qui pète les plombs.
Enfin, moi, je suis à côté. C'est moi qui suis à côté.
Non, vas-y Antoine, donne ton avis.
Non non, allez-y, moi j'aime bien intervenir dans un deuxième temps.
Très bien. Bon bah alors du coup,
donc, okay, donc tu me donnes la parole, je vais la prendre.
Bah vas-y.
Alors, j'ai noté attendez,
sur un petit bout de papier.
Sur un petit bout de papier parce qu'il n'y a pas grand-chose à noter, on va être honnête hein. alors ami auditeur, voilà. Bon, si tu as vu ce film, donc super. Donc on n'a pas dit, mais le,
ah oui, on a
le réalisateur, c'est James Gunn, celui qui a fait les Gardiens de la Galaxie 1 et 2.
Et puis qui a
et
fait
bientôt 3.
Et qui a commencé en tant que scénariste de série B, avec notamment.
Après, il a continué dans le.
Bah, et puis il a fait Suicide Squad aussi.
Non, il va faire Suicide Squad 2, entre guillemets. Il a commencé sur des séries B avec Troméo et Juliette, qui est une comédie parodique de la pièce de Shakespeare. Il a fait les Scooby-Doo au scénario. Oui. Donc voilà, on est sur de la bonne grosse série B quand même.
Ah, bah oui.
Et il a fait, il aime bien les zombies, donc il a fait aussi le scénario de L'Armée des Morts, de Zack Snyder.
Alors maintenant, il est donc sur des films de catégorie M.
Ça doit être ça, ouais. Et du coup, il est arrivé, il a fait ses débuts à la réalisation avec un premier film d'horreur qui s'appelle Horribilis, sorti en 2006, qui. Voilà.
D'accord.
Qui est. Enfin, tout ce. Je suis pas un fan de films d'horreur, j'aime pas trop ça. Mais en gros, quand j'ai vu ce film, il y avait vraiment tous les clichés que je me mets dans les films d'horreur, tout ça c'était dedans. Avec l'humour potache qui est caractéristique de James Gunn et qu'on retrouve dans les Gardiens de la Galaxie 1, qui est un bon divertissement honnête et fun avec une bande son bien nostalgique, bien comme il faut.
Je trouve que c'est un des meilleurs de la licence Marvel.
Il est dans les meilleurs.
Et un gardien
de la Galaxie 2 qui est chiant comme la pluie. Voilà.
Bah, parce qu'il se passe rien dans le.
Et entre les deux, effectivement, il y a super. Je te laisse continuer.
Donc. Voilà. Donc, ami auditeur, si tu connais le film, bah, tu l'as déjà oublié. Et si tu ne connais pas, tu vas avoir juste une envie, c'est d'aller voir la bande-annonce. Donc, à 1 minute 26, il y a Ellen Page qui dit alors, It's so boring. Donc, ce qui veut dire en français, c'est tellement ennuyeux. Et c'est voilà, c'est exactement ce que je veux dire du film. Alors, il a aussi un autre avantage à lui. Au début, je lui fais super, un film de super-héros. Mais qui sort pas de l'univers qui sort de l'univers Marvel ou DC en fait, qui sont les deux grosses productions. Et donc je lui dis, tiens, c'est marrant de voir ce que ce film peut proposer. Bon voilà, il propose, c'est bien. Une petite note pour l'intention. Mais voilà, non, moi je, honnêtement, il m'en reste rien du tout. Enfin, c'est voilà, je passe mon chemin.
je vais être assez d'accord avec toi parce qu'en fait ce film est vraiment oubliable. Il n'y a pas grand chose à sauver. Après, pour avoir vu une grosse partie de la filmo de James Gunn, ce qui n'est pas un.
C'est pas très difficile.
C'est pas très difficile puisqu'il a fait que 4 ou 5 films. Je ne me souviens plus exactement, je crois 5. Puisqu'il a participé, il fait partie des réals qui a participé, je vais arriver à My Movie Project avec une bonne douzaine de réalisateurs. C'est un film avec une douzaine ou une quinzaine de réalisateurs et chacun réalise un petit segment du film. Voilà, donc James Gunn fait partie de cela. Plus j'avance dans sa filmo et plus je me dis que j'aime pas en fait. C'est pas un réel qui me parle. Ce qu'il distingue, c'est sa manière d'écrire des dialogues parce qu'il a l'humour potache qu'on retrouve dans tous ses films. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Par exemple, dans Gardien de la Galaxie 2, il n'y a pas grand chose à sauver, mais il y a une scène sur un sparadrap. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle, qui est super longue mais super géniale. J'ai adoré ça, je me suis marré pendant 5 minutes parce qu'elle dure bien 5 bonnes minutes.
Il y a des trucs rigolos, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de fond dans le scénario.
Le scénario est vide comme quelque chose de vide. J'ai pas de métaphore.
Dans l'absolu, le le premier Gardien de la Galaxie, il est vide le film. En fait, il marche juste sur une nostalgie. On se dit, ah super, c'est on a l'impression de revoir un Star Wars.
Il est un peu moins vite que
le 2. Il est un peu moins vite que le 2.
Ouais, non, mais sauf qu'en fait, le 2, c'est la même formule que le 1.
Bah, en plus vite.
Sauf que.
Sauf qu'on découvre pas les personnages. Non, et que...
Donc, voilà, la découverte est passée, donc voilà. Ça fonctionne pas. Bref, si on revient à Super, le souci de ce film, c'est qu'il il fait succéder des bonnes idées, il y a quand même quelques bonnes idées dans le film, et des mauvaises, qui fait que ce film, en fait, à aucun moment va te marquer. Bah déjà pas par son image, parce que bah, ça se voit que le mec, à la base, il n'est pas réalisateur, il n'a pas vraiment de personnalité, vraiment de manière de filmer, vraiment de science du plan percutant, que tu vas dire ah ouais ça c'est bien vu, c'est bien trouvé, c'est bien, enfin à quel moment je me suis dit ça.
C'est l'acteur aussi quand même qui est quand même pas bon, l'acteur principal.
L'acteur principal, je sais pas, moi je peux pas juger l'acteur parce que c'est le seul et unique film où je l'ai vu.
Non mais moi je parle dans ce film là.
Rainn Wilson, je l'ai jamais vu avant, je l'ai jamais vu depuis. Ellen Page a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais a fait le taf.
A fait le boulot.
A fait le taf. Il n'y a pas de grande ambition et j'ai l'impression qu'en fait ce film perd. C'est pas où il veut aller. Il a du mal à trouver son rythme entre le côté un petit peu satirique du super-héros et le film d'action. Il y a aussi le côté le travers que je trouve un petit peu de James Gunn. Hors des Gardiens de la Galaxie, parce que là il y a Marvel derrière, donc il faut aseptiser, mais dans ses films il a la manie de mettre un petit peu de gore sans vraiment que ça soit justifié scénaristiquement. Et là dans ce film là on est complètement dedans. Des fois, il y a du sang qui gicle, tu me dis mais ouais. Hein ok, ouais. Dans son premier film, O'Reilly, c'est totalement ça. C'est du gore pour faire du gore. Ça m'a saoulé à un point, voilà. Bon, sinon, j'ai pas grand chose à dire. Que effectivement, je vais reprendre la même conclusion d'Antoine parce que je suis quelqu'un d'inspiré. Je passe mon chemin.
Ouais, il reprend les principes des années 80 avec gore et humour. Sauf qu'il n'y arrive pas toujours, mais.
Non, ouais, sauf que j'ai l'impression que dès qu'il tente un truc, ça marche pas en fait. Hein, parce que des films gore avec humour, il y en a plein. Enfin,
je sais pas, mais en même temps.
En fait, à chaque fois, j'ai une référence qui est mieux que ce qu'il propose en fait.
Enfin, ouais, et puis en plus, la hype qu'il y a eu avec lui, c'est avec Les Gardiens de la Galaxie. Donc, oui. Les Gardiens de la Galaxie, c'est pas un film dans lequel il a eu le complet contrôle. Il y a eu Kevin Feige, le producteur qui était derrière.
Il y a eu une hype sur ce réalisateur-là.
Bah, c'est là qu'il a accédé à la notoriété parce que les Gardiens de la Galaxie ont super bien marché. Mais je pense que c'est.
Je pense qu'elle reste dans un petit cercle. Hein, parce que,
oui, bien sûr.
Non, mais c'est pas un réalisateur qui fait partie des grands réalisateurs ou très connus.
Sans vouloir être méchant, je pense qu'il en fera jamais partie. Hein.
Bah, je sais pas. Peut-être qu'il s'améliorera avec le temps ou pas, mais j'en sais rien.
Je sais pas. Bah, il peut que progresser, ce qui est bien.
Oui, non, mais il peut que progresser, mais
quand tu vois ce qu'il va faire.
C'est compliqué de devenir un grand réalisateur quand, au bout de 4 films, on sait toujours pas qu'est-ce qui fait sa spécificité à lui, hormis de mettre de l'humour potache. Bah, au bout d'un moment, ça suffit pas.
Et puis, vu ce qu'il prévoit de faire avec Suicide Squad et Gardien de la Galaxie 3, c'est pas là qu'il va nous impressionner.
Ça va être la même chose. Ça va être strictement la même chose.
Mais c'est ça qui est fou quand même. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu. Un peu bizarre cette machinerie là, Marvel, c'est qu'au final le gars il a fait 2 mauvais films et il l'engage directement sur un gros blockbuster en fait. Enfin,
ils ont trouvé que c'était quelqu'un qui était malléable.
Ouais, non, mais sûrement, mais ce que je veux dire, c'est que bon, bah, je sais pas.
Ça leur suffit si ça marche. Ça leur
ouais, non, mais oui, sauf que, ouais, ouais c'est ça. Sûr que de toute façon ça marche. Donc.
Alors j'ai été surpris, mais O'Reilly, son premier film, a eu de bonnes critiques.
Bah, ça doit être pour ça qu'il a été engagé.
Bah, peut-être, ouais.
Il a eu 2 télés dans Télérama. Marvel, il a fait hey, it's amazing.
Et puis il a fait super.
Surtout qu'évidemment, Kevin Feige, le directeur des Marvel Studios, il lit Télérama.
Bah, c'est sûr.
Évidemment.
Ouais. Puis en plus, il le reçoit chez lui, tu vois, en abonnement.
Il a vu le petit bonhomme là. Waouh.
Je pense qu'il va plutôt sur Tomato Rotten. Mais...
Non, sur Halluciné, non.
Carrément. On va enchaîner sur une chanson.
Pourtant, Gun d'NTM.
Non, Stand Up de The Prodigy qu'on retrouve dans la BO de Kick-Ass. Et puis on se retrouve juste après. Ouais. Bon, on se retrouve pour Je vais au ciné et on va parler de À couteau tiré. Ah, excusez-moi mon cher ami.
Merci. On m'avait coupé le son.
Oui, je voulais pas lui remettre, j'avais peur de ce qu'il allait dire.
Oh bah, sur celui-là, t'as pas de crainte à avoir.
Ah, alors À couteau tiré, de quoi ça parle? Bah, ça parle d'une enquête policière dans un manoir où il y a eu un mort.
C'est
qui
ça.
Est le propriétaire des lieux.
C'est ça.
Jusque-là, on se retrouve
est sur
un peu...
On est sur le film Cluedo, du moins au début, on est sur le film Cluedo pur et dur.
C'est l'idée, mais je trouve que ça ressemble un peu plus au style Agatha Christie, parce que c'est vraiment un style...
Oui, enfin, le film c'est Cluedo, quoi.
Ouais, ouais.
Voilà.
C'est une enquête du Agatha Christie.
Qui a réalisé?
Ryan Johnson.
Ryan Johnson.
Et quand il est sorti?
2019.
D'accord, donc c'est récent.
C'est tout récent, ça vient
c'est tout ça. Récent, ouais.
Mais c'est cliqué dedans?
Ah, par contre, il y a ce qu'il faut. Hein. Il y a le casting, il y a Daniel Craig qui joue le personnage principal, Benoît Blanc. Il y a
qui est un enquêteur privé.
Qui est un enqueur privé, tout à fait. Qui est un peu le, qui est un Hercule Poirot, quoi, en fait.
Ouais, bon. En moins bon, mais.
Sans la moustache.
Voilà, sans la moustache. On a Ana de Armas, on a Toni Collette. Michael Shannon et puis j'en oublie encore, il y en a encore plein d'autres.
Il y a
vraiment
pas le mec de Thor,
c'est vraiment un cast. Non, c'est Chris Evans et c'est Captain America, c'est pas Thor. Et c'est vraiment un casting 5 étoiles. Là, ce film a dû mettre la moitié de son budget dans la paye des acteurs.
Bah, entre Jamie Lee Curtis. Enfin, il y en a
tellement. Jamie Lee Curtis, ouais, j'avais oublié celle-là.
Il y en a tellement que tu fais bon, bah c'est.
Ouais. Ouais.
Après, il y a des gens qui sont pas très connus dans le film.
Oui, voilà.
Mais il y a quand même dans les rôles plus secondaires.
Plus secondaires, ouais. Mais bon, le film tourne essentiellement autour de Daniel Craig et Ana de Armas qui jouent un peu qui sont les principaux ressorts du film. Bon, vu que je suis parti, je vais dire ce que j'en ai pensé. Moi, je me suis éclaté devant ce film. On a été le voir au cinéma avec Antoine. Moi, je me suis vraiment amusé devant ce film. Moi, ça a fonctionné à fond sur moi. Je l'ai trouvé vraiment très très drôle. J'ai eu peur à plusieurs moments. Il y a un moment dans le film où je me suis dit comment on va faire pour aller plus loin? Et j'en dirai pas plus pour ne pas gâcher, parce que du coup, si je vous raconte ça, il n'y a plus aucun intérêt d'aller voir le film. Je me suis dit il reste encore 1h30 de film, comment ils vont faire pour retourner le truc? Et en fin de compte,
ce qu'il faut dire, c'est un faux Cluedo en fait.
Ah oui, totalement.
Ouais, carrément.
Totalement.
Et puis même, je trouve que la référence à Cluedo, elle est surfaite parce qu'on le voit pas vraiment. Enfin, moi, je trouve que on aurait pu donner n'importe quelle référence autre que Cluedo.
Non, mais c'est parce que c'est.
C'est le principe de Ryan Johnson aussi. Ryan Johnson, à chaque fois qu'il fait un truc, il prend les clichés d'un style cinématographique, d'un style de film, en l'occurrence là le film Cluedo, et puis un par un, et à dire ah tu t'attends à ça, eh ben non. Ah tu t'attends à ça, eh ben non. Ah tu t'attends à ça, eh ben non. Alors c'est vrai que c'est une mécanique qui est surprenante. On s'y attend pas, puisque du coup, il botte en touche systématiquement ou quasi systématiquement. Ça oscille le défaut de ses qualités, de ce procédé-là. Au bout d'un moment, ça finit par devenir prévisible dans le fait de justement systématiquement botter en touche sur ce qu'on attend.
Bien, voilà. Le seul film que j'ai vu de lui, c'est Looper. Et je trouve que dans les deux cas, bah, ils sont prévisibles. Dans les deux cas.
Parce qu'au bout d'un moment, ça devient prévisible le fait qu'il botte en touche.
Bah, c'est systématique. Enfin, je sais pas si c'est cinématique, mais en tout cas, dans ces deux films, ils sont prévisibles l'un comme l'autre.
Blooper, je sais pas, je peux pas te dire, je l'ai pas vu. J'ai découvert Ryan Johnson sur Star Wars 8, qui est certainement le Star Wars le plus soumis à débat de toute la saga. Justement parce qu'il a fait, entre guillemets, un petit peu ce qu'il voulait. Il a cassé des trucs. Comme il sait si bien le faire. Voilà, autant que sur Star Wars, j'ai eu besoin d'un autre visionnage pour me faire à l'idée. Et il y a certains trucs que j'ai toujours pas, que je trouve plutôt mal amené. Autant que sur À couteau tiré, pour moi, c'est un film qui n'a pas d'autre fonction que de divertir. de s'amuser, de passer un bon moment. Oui, il y a certains trucs qui sont prévisibles. Oui, c'est un film qui n'est pas exempt de défauts. Oui, la décoration du manoir est kitsch au possible. C'est pas possible de faire aussi kitsch.
Mais c'est voulu. C'est voulu.
Oui. Bah, ils ont poussé les curseurs à fond, ils se sont amusés. Mais au final, ça, j'ai passé un bon moment. Les deux heures, je ne les ai quasiment pas vues passer. Donc voilà, ouais, il a rempli sa fonction avec moi.
Antoine,
bah, moi, c'est un film, si Mika ne m'avait pas traîné, je n'aurais pas été le voir parce que Ryan Reynolds, je ne connaissais pas.
Ryan Reynolds, c'est quelqu'un d'autre. c'est Six Feet Underground, Ryan Reynolds.
le réalisateur, je
Ryan connaiss... Johnson.
Ryan Johnson, je ne connaissais pas. Et Daniel Craig, je m'en moquais un peu, en fait. Enfin, c'est pas lui qui va me faire aller voir un de ses films. Et c'est vrai que le film s'est fait assez... je sais pas pourquoi, mais il s'est fait un peu démonter à sa sortie. J'ai pas entendu des critiques assez positives, alors qu'au final, moi, j'ai aussi passé un bon moment. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, il y a un twist dans le milieu du film. C'est pour ça qu'on n'est pas dans un vrai Cluedo.
Ouais.
Le film, après, part sur autre chose, mais je trouve que la transition marche bien. Et heureusement, parce qu'au final, on sait très vite qui a tué, en fait. Il n'y a aucune surprise de ce côté-là.
Non, il n'y a aucune surprise.
Le film n'aurait pas pu tenir entièrement là-dessus. Après, moi, j'ai trouvé que Daniel Craig faisait plaisir à voir, parce que, tous, en fait, tous autant qu'ils sont, je sais pas, alors c'est un ressenti qui sûrement personnel, mais j'ai l'impression qu'ils prenaient plaisir à jouer, en fait.
Enfin, ah, mais
ils cabotinaient tous, enfin, ils étaient tous...
Ouais.
Ils ont rajouté des caisses, et c'est vrai que moi, ça a marché sur moi, et et j'ai effectivement, les deux heures de film, je les ai pas vus passer.
Daniel Craig, je trouve qu'il prend un plaisir fou à casser son image de James Bond, du coup. Parce que du coup, ses derniers films, c'est que des James Bond. Donc du coup, il a besoin de casser son image. Et là, je trouve qu'il ça marche très très bien. Et la deuxième, Ana de Armas, qui je trouve, confirme son statut d'actrice en devenir, qui potentiellement pourra devenir très intéressante dans les prochaines années si elle arrive à décrocher des rôles un petit peu plus intéressants que celles qu'elle a eues par le passé.
Je trouve que son personnage est un personnage qui suit. Je sais pas si elle est si enfin dans ce personnage-là, je trouve pas si intéressante que ça.
Ah, je trouve qu'il y a à manger. Il y a à manger dans son truc. On l'avait vu avant dans son rôle le plus connu, c'est dans Blade Runner 2049, où là, elle était un peu limitée par le rôle puisqu'elle jouait une intelligence artificielle. Donc c'est compliqué d'en faire des caisses quand tu joues un robot. Mais elle s'en sortait superbement bien. Et elle va retrouver du coup Daniel Craig dans le prochain James Bond qui sort en avril. C'est la nouvelle James Bond Girl. Et elle a été choisie aussi pour incarner Marilyn Monroe dans le biopic qui est prévu pour l'année prochaine. Donc je pense qu'elle risque de devenir une des actrices bankable d'Hollywood.
Il ne me reste rien du tout de cette actrice. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Par contre, c'est vrai que j'étais content de le voir avant d'avoir entendu trop de critiques parce que ça m'aurait démotivé. Mais c'est vrai que non, c'est agréable, c'est sympathique.
Vas-y, Seb,
moi je voulais le voir. Il est beau, globalement, il est beau. Même la photographie, je la trouve plutôt réussie. Je vais pas spécialement le défoncer. Je le trouve moins bon que d'autres films que j'ai vus un peu avant. Alors, il y a un téléfilm qui s'appelle La Maison Biscornue, qui est avec Glenn Close et qui est réalisé par Gilles Paquet-Brenner, qui est bien meilleur. Alors déjà, c'est tiré d'un roman d'Agatha Christie qui s'appelle La Maison Biscornue. Donc déjà, au niveau du scénario, c'est meilleur. Glenn Close est extraordinaire.
Après, on n'est pas sur les mêmes choses. Là, on est vraiment sur un pur Cluedo et pas sur un du Cluedo.
C'est un thriller dans les deux cas. Ça nous parle d'une enquête et ça se passe aussi dans un manoir avec un meurtre dans un manoir avec une vieille personne. Enfin, bref, j'ai retrouvé que ça se ressemblait beaucoup au niveau des scénarios et que je trouvais que déjà le téléfilm était meilleur et c'était un téléfilm et qu'en plus, on ne voit pas arriver... Et en plus, la fin, on la voit vraiment pas arriver, quoi. Tu t'attends pas à ça. À part dans les dernières minutes, mais tu l'attends pas.
C'est Agatha Christie aussi.
Dans Un couteau tiré, si on revient à la fin, il y a une belle utilisation du procédé qu'on appelle le fusil de Tchekhov.
Oui. Là, c'est un très bon exemple.
Alors, les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est un fusil de Tchekhov, on va quand même préciser ce que c'est au lieu de nous la péter. Ouais. Le fusil de Tchekhov, c'est un élément qui est utilisé souvent à un objet. qui en apparence est anodin et qui va être réutilisé à un moment du film forcément. On nous le montre, on s'attarde dessus. Ouais. Et ensuite, on l'oublie complètement et il va ressortir forcément à un moment du film. C'est ça le procédé de fusil de Tchekhov.
Au cinéma, il y a souvent un plan dessus. Au théâtre, il apparaît dans le décor. C'est rarement anodin. Et quand c'est anodin, ça reste un film très bon parce que ça n'a aucun intérêt d'avoir fait un plan là-dessus.
Je trouvais que c'était rigolo. Là, ils se font, au début du film, ils se font tous... interrogé par donc Daniel Craig, ils sont assis sur une espèce de trône à la Game of Thrones avec tous les couteaux là qui sont mais le film est sympathique,
mais moi je le trouve plutôt beau, réussi au niveau même du décor, je le trouve réussi, mais il est pas aussi bon même que le Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh qui est sorti en 2017 avec pléthore aussi d'acteurs que je trouve bien meilleurs.
À la fin de l'année, il y a Mort sur le Nil qui sort.
Mort sur le Nil, ouais. Mm. Mais
voilà, c'est pour ça.
Mais dedans, t'as Penélope Cruz, t'as pléthore, Johnny Depp et j'en passe. T'as pléthore d'acteurs et je trouve aussi ce film meilleur. Mais c'est aussi ça pêche sur le scénario, c'est-à-dire que le Crime de l'Orient Express, c'est toujours Agatha Christie et tout de suite le scénario est meilleur. J'y peux rien. Le principal problème de A Couteau Tiré, c'est son scénario.
Mais pour moi, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème. Pour moi, tu compares deux choses qui n'ont pas le même but. Les deux ont pour but d'adapter un roman d'Agatha Christie. Le but les romans d'Agatha Christie, c'est de te tenir en haleine jusqu'à la révélation finale.
Bah oui, mais c'est ce que j'attends d'un thriller, je suis désolé.
A Couteau Tiré, c'est pas du tout ça.
C'est ce que j'attends d'un thriller et c'est un thriller.
Malheureusement, voilà, c'est ça en fait. Mais en fait, faut que ça marche ça. En fait, parce que tu vas voir en attendant ça. Tu vas voir à couteau tiré en t'attendant à ça.
Non, mais en plus.
Et du coup, soit tu rentres dans la proposition du réel, il dit tu t'attends à ça, en fait t'auras ça. Soit ça marche, soit ça marche pas. Sur Antoine, sur moi, ça a marché. Sur toi, ça n'a pas marché.
Ah non, ça n'a pas marché. En plus, sur Wikipédia, c'est bien un thriller à énigmes. Il n'y a pas d'énigmes.
Il n'y a pas vraiment d'énigmes, c'est sûr.
Donc le problème est là, c'est que c'est même sur ce qu'il propose, il est à côté.
Il y a quand même la surprise à la fin. Il y a quand même la surprise à la fin du.
C'est juste un détail.
C'est un détail. Et encore, je trouve qu'il est même trouvable avant.
Non, mais c'est sûr qu'il ne faut pas y aller pour l'enquête.
Tu ne vas pas te prendre la tête sur ce film. Tu vas juste passer un bon moment, en fait. Tu ne vas pas te prendre la tête.
C'est le côté problématique pour moi.
Et a priori, ils vont en faire un 2.
Il
y a des infos qui vont faire un 2 où il y aura un casting totalement différent, à part juste Daniel Craig qui reprendra son rôle de détective.
Ok. Bon, voilà. On vous a donné nos avis sur ce film, même sur d'autres. On se retrouve la semaine prochaine.
Même jour, même heure.
Voilà, le lundi à 14h. Et puis, la semaine prochaine. Au revoir.
À bientôt.